séminaire s'est arrêté sur un mot, amour. Je vais ce soir partir de là parce que l'amour, c'est quelque chose qui est un dire. C'est quelque chose qui pose la question du temps. C'est quelque chose qui pose la question de ce que peut être la lettre d'amour, par exemple. Et bien sûr, c'est quelque chose qui va risquer de partir du côté du narcissisme. Ce que je proposais la dernière fois sur le mot, à partir du mot amour, c'est de partir du temps où, du fait d'une rencontre qui est celle du réel, du réel qui est lié à quelque chose qui n'a justement pas de dire, qui est l'inexistence du rapport sexuel, il peut arriver, voilà la dimension du possible, il peut arriver, et là on est en termes de discours, hein. On n'est pas dans une psychologie, une phénoménologie, une explication, quoi que ce soit. Il peut arriver que cette jouissance de l'autre, autre grand A, qui est effectivement tout à fait problématique, puisque d'un côté, du côté de l'homme, il s'agit que le partenaire soit réduit à l'objectita. Du côté de la femme, c'est une jouissance éminemment énigmatique, voire folle. Bien sûr, pas au sens psychiatrique du terme. Et c'est en quelque sorte de la rencontre de cette impasse et du réel qui est en jeu dans cette impasse que ce qui, jusque-là, justement, ne cessait pas de s'écrire, le nécessaire recouvrant bien sûr ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, impossible, il peut arriver que quelque chose cesse de ne pas s'écrire, le contingent, et qu'alors, dimension du possible, la dimension de l'amour advienne, à savoir que quelque chose cesse de s'écrire. Il y a bien sûr une ou plusieurs bibliothèques dans ces formulations, c'est les quatre façons logiques que Lacan va prendre pour avancer son élaboration en direction de la jouissance. Alors, pourquoi dire ça? Parce que ce que prouve l'expérience du transfert, c'est que l'inconscient, au niveau de l'inconscient, du point de vue de l'inconscient, l'homme de la femme ne sait rien. La femme de l'homme ne sait rien. D'où, logique, il n'y a pas de rapport sexuel. Évidemment, ce n'est pas le rapport au sens commun du terme. Ce n'est pas sexuel au sens commun du terme. Le sexuel étant souvent rabattu sur le génital. Et vous voyez que l'importance de l'amour apparaît du fait que ce serait, quand ça peut avoir lieu, en termes de discours, j'insiste bien, c'est pas un ressenti quelconque. Ce serait le moment propre à chacun, où du possible advient. Et du possible advient qui, du coup, va pouvoir faire, dire, que l'impossible était en fait impossible à venir. C'est-à-dire ce qui ne pouvait pas s'écrire, le réel, par définition, ne pouvait pas s'écrire. On va rajouter que dans la structure, c'est assez compliqué, on y viendra progressivement, ce qu'il appelle la structure, évidemment, ce n'est pas ce qu'on appelle la structure, ce n'est pas la structure psychotique, névrotique, ça, non, ça c'est de la psychologie. Ce n'est pas du tout ça. Dire un mot, la structure, c'est ce qui résulte de... C'est le mot qui est donné à ce qui résulte de l'entrée en jeu du langage. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui pose la question du désir et de la jouissance. Donc, étant donné que la psychanalyse, l'expérience de la psychanalyse, le psychanalyste, s'il prend en compte ce que l'on appelle le discours analytique, c'est-à-dire quatre lettres, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout signifié. À gauche, il y a le petit a sur le grand, sur le S2, position de vérité, c'est-à-dire l'agent sur le savoir, S2. À droite, il y a le S barré sur le grand S1, sur le S1, sur le signifiant maître. Je ne vais pas développer ça, on essaie un petit peu d'approfondir ça une autre fois. Mais si on prend ça, c'est-à-dire des lettres, c'est-à-dire quelque chose qui essaie d'écrire une logique, et non pas de l'explication historique, de l'anamnèse, de tout ce qui peut être pris pour comprendre, pour penser. C'est une logique, ça ne se pense pas. Ça n'empêche pas qu'on va essayer un peu de le penser. Donc, si on avance dans cette perspective-là, et c'est là où arrive Lacan, vers les années, bien sûr, à peu près, il a déjà avancé avant, mais 68, 69, 70, et après, c'est les années où il va poser, après le séminaire encore de 72, 73, la dimension de la jouissance. Le séminaire qui suit, c'est les noms du Père. Dans ces moments-là, effectivement, quelle mouche pique Lacan ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Quelle mouche pique Lacan pour que, justement, il s'amoche en quelque sorte. Parce que, évidemment, quelque chose est amoché, c'est toute la théorie, et beaucoup de choses qui non seulement sont déjà dites par lui, mais surtout que les autres psychanalystes disent. Il ne va pas se priver d'ailleurs, dans les séminaires, on entend surtout ça quand on les écoute. C'est assez différent quand on lit les transcriptions de Miller, parce que c'est pas pareil. Voilà. Ça ne donne pas la même chose, pour moi. Et d'autant plus que les séminaires, ils les faisaient quand même pour qu'on les entende, et non pas pour qu'on les lise. Donc ça pose vraiment une question dès qu'on lit une transcription. Voilà donc cette dimension de l'amour, et c'est un peu par là qu'on va s'approcher, aujourd'hui, prolonger les choses, à savoir... On pourrait dire que l'amour, on connaît quoi ? Nous, les êtres parlants, nous connaissons l'amour divin. On connaît l'amour tel qu'il est pratiqué entre les humains, en sachant, et ça c'est la découverte de Freud, c'est le dire de Freud ne l'a pas dit, c'est son dire. Le dire ne se dit pas en tant que tel. C'est au contraire les passeurs de Freud, comme Lacan, qui vont pouvoir l'aborder. Donc le dire de Freud, quand Freud aborde la question de la sexualité, le dire de Freud que va transmettre Lacan, notamment dans ces années-là, hein, c'est le fait que il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que l'être parlant ne peut que se perdre, et c'est ça que Lacan appelle le réel, dans le rapport sexuel, c'est-à-dire dans ce qui se passe entre un homme et une femme. Il ne peut que se perdre, et la psychanalyse vient de là. Freud l'a abordé évidemment pas tout à fait comme ça, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que il y a un certain mode du jouir propre à chacun que Freud va appeler la répétition et qui est en quelque sorte ce quelqu'un, ce lui-même, qui fait qu'il va toujours être pris dans la même répétition de quelque chose. Donc chacun d'entre nous a un certain mode du jouir, pas de jouir, du jouir, et la question qui est posée finalement d'emblée par la psychanalyse, c'est celle de l'existence, quelque chose qui vient d'ailleurs, de l'existence d'un autre mode de jouir, un mode au sens mathématique ou au sens musical du terme. Cette question de ce qui, de ce dans quoi se perd l'être parlant, ce dans quoi se perd l'être parlant, dans ce qui peut se jouer, se jouir entre l'homme et la femme, est une question évidemment importante, et d'autant plus importante qu'elle n'a jamais été posée avant la psychanalyse. Autrement dit, il aura fallu attendre la psychanalyse. Bien sûr que ça a pu être posé, en fait, mais ça a pu être posé dans des conditions telles que, sur un mode de savoir, je dirais comportementaliste ou scientifique, on explique des choses, mais ce n'est pas de ça dont on parle, on essaie de parler du fait que, dans un certain type de discours, un discours qui est le discours du savoir masculin, qui est aussi le discours féminin, on précisera à nouveau ça, parce que évidemment ce n'est pas des termes qui sont à prendre au sens commun du terme. Il faut qu'on s'arrache à la bêtise commune du sens. Hein, parce que Lacan propose à un moment son séminaire comme une éducation. Les noms du père. C'est-à-dire qu'il s'agit d'arriver à être dupe d'un dire qu'évidemment on ne contrôle pas du tout, mais qui va faire de nous des êtres humains. Alors, cette dimension de l'amour, je reviens là-dessus, nous la connaissons bien sûr, et je voudrais dire, je voudrais un petit peu lancer ce soir, pousser ma chansonnette ce soir sur la façon dont cette question est abordée à un certain moment de l'histoire, mais ce qui compte c'est pas le moment de l'histoire, c'est le discours. Lorsque apparaît quelque chose qui est l'incarnation, c'est-à-dire l'apparition du christianisme. Puisque vous savez que dans le christianisme, je crois qu'on soit dans la tradition chrétienne ou pas, on doit être plus ou moins pris là-dedans, dans ce fameux commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est le commandement divin par excellence. On peut retrouver chez Luc, chez Marc, les évangélistes, enfin de toute façon. Et que l'accord a commenté à plusieurs reprises d'ailleurs, et qui pose la question, j'en ai parlé à l'UNESCO rapidement, qui pose la question, j'ai essayé de l'introduire à partir du cogito cartésien. Depuis, je refais un travail de texte de 3-4 pages, où j'ai développé ça. On pourrait dire que, et ça va dans la perspective de la rencontre par l'enfant du discours dans lequel il aura à rentrer, bien sûr. L'enfant est tout ouvert, il suffit de regarder le nouveau-né, les yeux, la bouche, les oreilles, elles sont complètement ouvertes à tout ce qui peut se passer. Ils sont tout à fait présents à ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est important et qui est le fait que nous allons être amenés à reconnaître notre image, sa image, l'image spéculaire, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec l'être, à partir de ce que le discours, je ne veux surtout pas personnifier les choses, dire le père, la mère, à partir de ce que le discours de l'autre véhicule et véhicule de telle façon que quelque chose puisse être interprété. Et nous allons, à partir de là, développer une conception du monde, d'une certaine façon, qui va être à l'image de la façon dont on a perçu tout ça pour soi-même. Autrement dit, ça signifie que le monde en lui-même est une perception de nous-mêmes et que cette perception de nous-mêmes, oui, elle est à l'image de l'amour, de l'investissement et de l'amour qui nous a été, je dirais, pense-t-on, même si ce n'est pas une pensée, qui nous a été en quelque sorte réservé. Autrement dit, cette dimension de l'être, elle apparaît, et du coup, on va être porté à, même si ce n'est pas un commandement, je dirais, on va être porté à attribuer à un être supérieur, alors c'est là qu'apparaît Dieu, notamment dans le christianisme, à un être supérieur, l'amour, il suffit d'aller écouter et entendre ce qui se passe dans une église pour voir combien de fois ce mot dans un office apparaît, Dieu est amour, etc. Bon. Et c'est important, pourquoi ? Parce que c'est à partir de là qu'effectivement, il est possible que l'on s'aime soi-même. Autrement dit, nous aimons Dieu à l'image idéalisée de nous-mêmes, c'est une image idéalisée de nous-mêmes, et sous son regard, c'est ce que j'ai essayé de développer par l'Arvatus Prodeo, devant Dieu, nous sommes dans la position de pouvoir être aimés, nous aimer. Et toute la dimension de l'être, notamment philosophie, peut se résumer à ça. Ça ne veut pas dire que les philosophes seraient d'accord là-dessus, mais on peut dire ça à partir de l'expérience du transfert. Pourquoi ? Parce que l'expérience du transfert conduit au fait qu'il y a de l'ailleurs que ça, de l'ailleurs que l'être. et que même c'est ce qui est attendu dans l'expérience du transfert, c'est qu'il y a un moment où, effectivement, cette dimension de l'amour et de l'être, de l'amour de l'être, alors ce qu'on va appeler avec Lacan le semblant d'être, le semblant, et c'est vraiment quelque chose de sérieux le semblant, hein. C'est pas du tout faire semblant, hein. Le semblant, l'être, le semblant d'être, c'est tout à fait ce qui apparaît dans le stade du miroir, c'est cette aliénation importante, radicale, à ceci près que, et alors là, c'est là que trouve son tranchant l'expérience psychanalytique. Et l'amour dont j'ai parlé tout au début, là, ce soir, il y a un point de suspicion entre l'enveloppe et l'objet. Dans la formule I, entre parenthèses, petit a, dans ce qui enveloppe l'objet, dans ce qui recouvre l'objet, dans l'enveloppe, dans l'imaginaire. Mais il ne faut pas dire dans l'imaginaire, parce que c'est pas si simple que ça. Il ne faut jamais, en fait, je crois qu'il ne faut jamais différencier l'imaginaire et le symbolique, c'est toujours ensemble. Il y a au niveau de l'enveloppe, au niveau de l'articulation entre l'enveloppe et l'objet, un point de suspicion qui est tout à fait important, parce que ce point de suspicion est ce à partir de quoi il peut y avoir une expérience de la psychanalyse. Sinon, ben, ce sera toujours, on raconte toujours les mêmes choses, on est finalement dans une relation assez hypnotique. Donc, ce qui est attendu dans le transfert, c'est des moments de défaillance dans le discours, parce que l'enveloppe dont je parle, c'est aussi une certaine façon de parler. Ce n'est pas uniquement l'image au sens visuel, on parle de l'imaginaire, ce n'est pas du visuel. Il est attendu à un moment, tout à coup, quelque chose qui, hein, dans un texte dont je parle, c'est une religieuse qui a Rome dans une église baroque, tout à coup, sa langue trébuche sur le fruit de nos entrailles. Il y a un petit truc là. Ben c'est ça le point de suspicion. Et c'est là qu'il y a tout d'un coup quelque chose qui peut dérailler. L'expérience psychanalytique, les formations de l'inconscient, vous voyez qu'elles sont, elles sont liées au fait que ce point de réel-là est capital. Et en fait, ce point de réel, ça remet en cause le commandement, évidemment, tu aimeras ton prochain comme toi-même, évidemment. Parce que l'effet de ce commandement, c'est quoi ? Ben, c'est qu'il n'y a pas de différence sexuelle. Il n'y a pas de désir sexuel, il n'y a pas de différence sexuelle. Et c'est ce que va véhiculer le christianisme, notamment. Bon, la doctrine telle qu'elle apparaît, le désir, finalement. Si elle est du péché originel, ça va tellement la culpabilité et tout ça. Hein. La chute et tout ça, c'est le fait que radicalement, ce mythe pré-chrétien, il va conduire au fait que ce qui a rejeté radicalement, c'est le désir sexuel. Hein. C'est terminé, hein, à partir de là. C'est plus valable, c'est qu'un mythe, il y a toujours plusieurs interprétations, mais enfin, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait aller, en regard de l'expérience du transfert, que du côté de la culpabilité, parce que la culpabilité, on n'en sortira jamais, je veux dire, c'est un truc, c'est ce qui ne cesse pas de s'écrire, justement, c'est nécessaire, alors ça, on peut en rajouter des tonnes, et puis que ça ne change rien. Le problème, c'est pas la culpabilité, hein, c'est même pas que tu te distingues culpabilité réelle, symbolique, imaginaire, c'est qu'est-ce qui fait qu'on vient, on est touché par quelque chose qui vient d'ailleurs, que la culpabilité. Donc, Cette question-là, qu'on essaie d'approcher, vous voyez qu'au sein même du discours, au sein même de ce point de suspicion, c'est quoi ? C'est le fait que ce qui vient recouvrir ce qu'on appelle l'objet, le réel de l'objet, petit a, mais plus de façon plus radicale, ce qui vient recouvrir le réel de l'inexistence du rapport sexuel. C'est-à-dire, ce qui vient recouvrir le fait qu'il y a une différence sexuelle. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas évident. Mais s'il y a rapport sexuel comme ça d'emblée, il n'y a pas de différence sexuelle. Donc, la différence sexuelle ne peut advenir que, en termes de discours, j'insiste bien, je ne parle pas évidemment de ce qu'on voit hein, chez. C'est-à-dire de quel côté apparemment à quelqu'un, en sachant que de toute façon, ce n'est pas si simple d'ailleurs. Hein. Mais cette impossibilité du rapport sexuel qu'on a déjà abordé la dernière fois, c'est pas du tout une catastrophe. Alors moi j'ai mis ça évidemment sur mon site, et puis celui qui s'occupe du site, il a mis ça sur Google. En deux jours, il y a eu tous les Algériens, tous les Français qui sont précipités pour avoir des recettes sur le rapport sexuel, évidemment. Ça montre comme on est aliéné au mot. Ils ont été servis, c'est le cas de le dire, hein. Parce que j'ai pas évidemment parlé de ça. Voilà. Et pour vous montrer que l'impossibilité du rapport sexuel, c'est-à-dire quelque chose qui est radical. Radical, il n'y a pas de dire là-dessus. Hein. D'accord, insiste bien, il n'y a pas de dire là-dessus. C'est le réel, c'est quelque chose qui tombe comme ça. C'est la différence sexuelle. Donc il faut qu'on arrive à partir de là, préciser un peu ce que c'est qu'être du côté homme et du côté femme. Et comme on est dans en termes de discours, parce que c'est ça l'important, comme on est en termes de discours, il faut qu'on précise les choses en termes de discours, c'est-à-dire en regard des lettres dont parle Lacan, S barré, S1, S2, petit a, etc. Et si, comme je le fais ce soir, je prends comme point de départ le point de suspicion qui est au cœur de chacun d'entre nous au niveau de l'image culturelle. Alors pourquoi c'est important? Parce que l'image culturelle, ce point de suspicion, c'est de là que s'adresse l'amour et c'est là où s'adresse l'amour. Et c'est de là que s'adresse la jouissance, et c'est là où s'adresse la jouissance. Lacan, séminaire encore. Je sais plus. Des petites phrases comme ça, tout d'un coup. On les lit 20, 30 fois, et puis un jour on les entend. Moi je trouve que quand on les entend, c'est pas pareil. Donc oui, ce point de suspicion, quand il apparaît, hein, alors on pourra peut-être parler de sidération, autre chose comme ça, mais. Ce point de suspicion a une énorme valeur, puisque c'est à partir de là que de l'avenir peut advenir. Alors, ça n'a pas de soi du tout. On peut même dire que ça n'existe pas, tout ce que je raconte, bien sûr, puisque ça ne se démontre pas. C'est lié à quelque chose qui se passe, où me semble-t-il, ou d'où me semble-t-il le psychanalyste à dire quelque chose, c'est-à-dire de sa pratique. Ça ne se lit pas, je raconte, vous n'allez pas le trouver, ça n'en est. Par contre, alors, sur l'homme, la femme, le machin, le savoir comment faire, etc., l'histoire, tout ça, on peut trouver, mais cette dimension comme ça, très, très, très radicale, très, très, ben oui, alors, on parlait d'un trou, ben oui, traumatisme, pourquoi pas, mais c'est pas un traumatisme en tant que tel, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui différencie la part masculine et la part féminine. Parce qu'évidemment, c'est pas si simple. ce dont je parle, ce n'est pas de l'état civil. Je parle du discours, ce n'est pas de l'état civil. C'est le fait que, du fait du langage, alors on revient au discours, on revient à la structure, c'est-à-dire qu'on prend en compte le langage. Si on parle de structure, ça suppose qu'on prend en compte l'existence du langage. Hein, ce fameux, l'existence du savoir de l'autre. Hein, le fait que la femme n'existe pas. Elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est une femme. Une par une, singulière, mais pas la femme. Hein. Eh bien, si on revient comme ça sur ces questions, c'est parce que chacun d'entre nous, du fait du langage, c'est-à-dire du fait qu'il est habité par le langage et qu'il habite le langage, peut être porté à un moment dans cette direction. Alors, la grande énigme, parce qu'évidemment c'est ça, qu'est-ce qui fait qu'il peut cueillir cette expérience, voilà, en termes de discours, hein. Eh bien, je crois que la réponse, elle est assez simple, c'est par hasard. Voilà, c'est une réponse mathématique, c'est la meilleure. Puisque rien, apparemment, ne met dans cette direction. Il n'y a pas une prédisposition pour... Non, parce que la prédisposition, c'est le désir inconscient qui fait que, comme Daniel l'a expliqué à l'UNESCO, voilà, c'est très simple, hein, nous sommes des voyageurs. De la naissance à la mort, ben, il y a quelque chose qui se déroule, et la vie se passe sur une voie, le viator. Et puis voilà, et puis ça se déroule comme ça, avec plus ou moins de chance et plus ou moins de malchance. Sauf si un jour, la structure, ma chère structure, tombe. Alors là, quelque chose pourra apparaître. Mais qu'est-ce qui fait que la structure apparaît? Ça, je crois qu'on ne peut pas répondre à cette question. Pourtant, vous voyez, dans quelle mesure elle est importante, mais pourquoi on ne veut pas répondre? Parce que c'est la dimension même de la jouissance qui est en jeu. Or, la jouissance, par définition, est imprévisible et incalculable. Autrement dit, et je vais étayer un peu ça à partir de Freud, parce que Freud parle de ça, mais évidemment... Il aura fallu un Lacan pour trouver ça dans des textes. Moi, je trouvais ça au début du séminaire Le Nom du Père, ce séminaire d'éducation, comme il est. Il lui est arrivé un truc à Lacan, je crois que c'est des choses qui nous arrivent, ça, évidemment. On ne s'en rend pas compte quand ça nous arrive. Un jour, il a acheté des œuvres de Freud, comme il dit, des débris, comme ça, qu'il a trouvé, je ne sais pas où. Et puis là-dedans, il a trouvé un texte qu'il ne connaissait pas. Je crois que c'est ça qu'il veut dire. Un texte de 22. Enfin, ici, il le connaissait, parce qu'il était quand même paru. Un texte de 22 qui s'appelle les limites de l'interprétation. Et en fait, c'est un texte de 4 pages, c'est des notes. Et en fait, il y a 3 types de notes. La première, c'est les limites de l'interprétation. Dickrensen, Derbecht, Markheim. Le deuxième, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le troisième, parce que c'est important, le titre, le troisième, c'est la signification occulte du rêve. Et le grand censeur John, explique que, quelque part, je ne sais pas où, si ce texte-là, parce que ce texte-là, il a paru, il a été publié en 1950. 22, 50. C'est bien aussi que Lacan, effectivement, l'avait trouvé comme ça un peu avant. S'il a été publié en 1950, c'est une raison. Raison, c'est parce que ces trois chapitres, ces trois notes là, qui devaient venir dans la science des rêves, à la fin de la science des rêves, c'était pas convenable. C'est toujours très intéressant, non, c'est pas convenable. Hein. Quand il y a la censure, c'est sûr qu'il y a un truc intéressant. C'était pas convenable parce que Freud abordait la question de l'occulte avec le rêve. Donc il fallait surtout pas que le maître Freud soit soupçonné de quelque chose qui l'intéresse du côté de l'occulte. Il a toujours donné son avis là-dessus, sans, en différenciant bien les choses. Alors, 1922, ce texte-là. Et puis, dans une édition, ça doit être la 8e édition de la Science des rêves de 1919, alors c'est la même chose, introuvable. Alors très peu avait été fait, hein, édité, absolument introuvable, il l'a fait trouver par quelqu'un qui connaissait, etc., l'APM, etc. Or, à la fin de la Science des rêves, l'édition qu'on a évidemment ne comporte pas ça, quand il aborde la question de la réalité psychique, là je fais confiance à Lacan évidemment, parce que je pense que c'est tout à fait ça. Freud glisse une phrase, alors qui aurait pu révolutionner notre colloque à l'UNESCO, là, complètement. Je vous dis pourquoi. Je l'ai dit à Alain, ça n'a rien changé. Cette phrase est la suivante, il dit, Freud, vous savez, le penchant de Freud pour la science. Freud, il voulait absolument s'accrocher à la science. Il dit ceci, il y a deux choses devant lesquelles, je paraphrase, il y a deux choses devant lesquelles le savant est mal à l'aise et qu'il n'accepte pas. Premièrement, ce qui advient après la mort, la persistance de quelque chose après la mort. C'est la question de l'immortalité de l'âme. Deuxièmement, justement, c'est ça. Ce que le savant n'accepte pas, c'est le fait qu'il y a de l'incalculable, c'est-à-dire c'est la contingence. Le savant définit des lois qui n'évolueront pas, on va peut-être trouver d'autres lois, mais une loi ne peut pas évoluer. Il y a eu un débat entre Poincaré et un philosophe, je ne sais plus comment il s'appelle, Poincaré a soutenu Mordicus que, en aucun cas, une loi mathématique ne pouvait évoluer. La loi reste fixe. 2 et 2, ça fait 4, point final. Trouver une loi, mais celle-là, elle ne pourra jamais changer. Autrement dit, toute la dimension de l'incalculable, c'est-à-dire de la jouissance, c'est-à-dire de l'inconscient, tu vois, vous voyez comment les choses apparaissent, ne peut pas après être prise en compte, et c'est logique, par la science, il n'y a donc pas du tout à demander à la science de le prendre en compte. Par contre, dans le texte, donc c'est dans l'édition, la 8e édition de la science des rêves. Par contre, dans le texte sur les limites de l'interprétation, Freud se lance comme ça, on peut penser qu'il rêve un peu, mais qu'est-ce qu'il rêve bien, hein? Il commence, il dit Frage, je ne sais plus quoi la question, si, etc. Je suis parti, chez moi il y a 4 jours, là. Je n'ai pas le texte là. Mais en gros, c'est ce dont il s'agit. Il pose la question suivante. Les activités de l'esprit, c'est la troisième ligne du texte. Les activités de l'esprit peuvent être divisées en deux parties. Il y a celles qui permettent de communiquer avec l'autre, avec les autres, de développer des idées. Et puis il y en a d'autres qui sont ce qu'il appelle Spielen et Fantasieren. C'est difficile à traduire comme ça, on peut dire jouer et la dimension de fantasmer ou du fantasme. Alors c'est surtout ce qui est important, c'est ce qu'il va dire après, c'est que le deuxième, c'est du Spielen et du Fantasieren. Concerne le rêver, pas le rêve, le fait de rêver, substantif, le fait de rêver, un infini, le fait de rêver est, alors voilà la perle, elle procure un unmittelbar Lustgewinn, un plus de jouir immédiat. c'est à peu près le seul endroit où Freud aborde cette question de la jouissance. Autrement dit, le rêve, ce qu'on appelle le chiffrage dans le rêve, est, on sait au moins, intellectuellement, est une épreuve de chiffrage. Ce chiffrage concerne la jouissance jusqu'au moment où ça se dégonfle, où le rêve s'arrête, c'est-à-dire où la pensée revient. Ce qui fait qu'on ne sait pas du tout combien de temps on rêve. Il n'y a pas question de se référer au sommeil paradoxal avec les électrodes, etc. C'est très bien tout ça, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est le rêve chez l'être parlant. C'est-à-dire que, alors qu'on en revient, et je vais arrêter là-dessus, du fait du langage, parce que tout ça c'est lié au langage, du fait du langage qui vient recouvrir cette radicalité, à savoir la différence sexuelle entre l'homme et la femme, le réel de la différence. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de l'amour véritablement, soit cette rencontre entre la rencontre qui survient du fait de la rencontre de cette impasse du réel, eh bien, du fait du langage qui vient recouvrir ça, nous naviguons comme nous pouvons dans le transfert avec quelqu'un qui parle. Et on peut mettre là-dessus les discours qu'on voudra, etc. Alors c'est discours universitaire, discours humain, etc. Tout ça. L'important n'est donc pas le dit, même si ça a de la valeur. Ça a de la valeur pour lui et c'est important. C'est important qu'il pense que pour nous, qu'il dit ça a de la valeur au niveau du dit. Mais il y a cette fameuse attention flottante dont parle Freud quand même. L'important, et vous voyez que c'est d'emblée là, au niveau de ce point de suspicion, qui est le point suspect, qui va rendre compte justement du fait que le féminin sera suspect, évidemment, bien sûr, parce que le féminin serait l'effraction de ce réel-là. Il y a, dans le discours même, mais dans la façon dont l'être parlant découvre le monde, quelque chose qui le met radicalement en position de pouvoir revenir sur l'effet de ce point de suspicion. Alors du coup, j'ai oublié évidemment de traiter ce que je voulais traiter ce soir, c'est-à-dire l'incarnation. Que je vais m'arrêter là, ce sera pour la prochaine fois. La question de l'incarnation par rapport à ça, me semble-t-il, c'est de savoir dans quelle mesure, non pas ce qui peut s'élaborer entre les chrétiens et le judaïsme, c'est pas ça personnellement qui m'intéresse, puisque je suis psychanalyste justement, je suis pas là pour recoller des morceaux. Au contraire, on est là pour ouvrir les failles, c'est pas pareil. Hein. L'important, c'est dans quelle mesure ce et le verbe s'est fait chair, puisque c'est ça l'incarnation. Vous voyez, dans la tradition chrétienne, on se met à genoux. Dans le credo, c'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Dans quelle mesure le et le verbe s'est fait chair n'est pas à la fois le début de toutes les difficultés qui vont apparaître, et on le sait, nous, psychanalystes, bien sûr, mais aussi le fait que un certain type de jouissance, parce que c'est ça la dimension du verbe qui s'est chère, un certain type de jouissance, au-delà des mots, parce que je crois que le verbe, c'est pas les mots, c'est autre chose, on peut dire que c'est le logos, mais ça va peut-être un peu. cette autre chose peut conduire à cette différence sexuelle qui résulte du fait que il y a droit du féminin. Donc je l'ai intitulé à l'UNESCO, j'en ai mis le titre au dernier moment, il y a un droit au féminin, un droit qui est lié au discours, un droit qui ne peut pas s'écrire, et qu'il y ait, alors ça c'est une piste de travail, qui est liée au fait d'entendre. Alors, je vais m'arrêter là ce soir.